Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et comme tous les mercredis, on va parler cinéma. Bonjour tout le monde. On va parler cinéma même si mon invité ce matin ne se considère pas comme réalisateur ou cinéaste. Et pourtant, il a réalisé deux films, La nuit tombée et Une jolie vallée, qu'on peut découvrir au cinéma à partir d'aujourd'hui. Et ce sont deux petits films entre fiction et exploration du réel, à la fois documentaire et comédie musicale. Oui, comédie musicale, puisque tous les gens ordinaires qui sont dans les films chantent. Gaël Lépingle, l'auteur de ces deux films qu'on peut voir ensemble dans quelques salles d'art et d'essai à partir d'aujourd'hui, est mon invité ce matin. Le réveil culturel avec à la coordination Corinne Amar et Maël Ray, à la prise de son Alain Joubert et à la réalisation Vincent Abouchard.
Le réveil culturel. Mercredi. Cinéma.
Cinéma.
C'est parti sur les routes à cheval à Paris, vers la grande capitale qu'il fait beau. Dieu que la campagne est belle, les oiseaux me font signe dans le ciel.
Je serai mousquetaire, oui, mousquetaire du roi, comme l'a été mon père bien longtemps avant moi. Je serai mousquetaire, rien ne m'en empêchera, et je ferai la guerre.
Voilà, c'est un extrait de votre film, Gaël Lépingle. Bonjour.
Bonjour.
Une jolie vallée. Bah, c'est un film, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de film. C'est un film expérimental, mais pas dans le sens où vous faites des expériences. Vous avez juste décidé de filmer le réel. Et dans ce réel, les gens chantent. Vous vous êtes arrangé pour qu'ils chantent. Mais vous ne vous considérez pas comme réalisateur pour autant. Ça m'intrigue.
Non, je suis réalisateur par ailleurs, parce que j'ai réalisé d'autres films. Mais c'est vrai que sur ce film-là, ça s'est passé un peu différemment, puisque par ailleurs, moi, pour gagner ma vie, j'écris des livrets d'opéra pour chœur, d'adultes ou d'enfants. Et c'est dans ce cadre, en fait, qu'un chœur amateur dans le Tarn, le chœur de Sittel, a décidé de monter Les Trois Mousquetaires, qui était donc une œuvre qui nous avait été commandée à Julien Joubert, le compositeur de la musique, et à moi, librettiste, par l'Académie musicale de Villecroze, avec laquelle on a l'habitude de travailler sur différents projets, avec d'ailleurs la maîtrise de Radio France, avec l'Éducation nationale, etc. Et donc ce chœur, se décidant de monter l'œuvre, nous appelle en nous disant, écoutez, on aimerait bien, on a un petit budget, on aimerait bien que vous nous aidiez aussi à la mettre en scène. Donc je débarque dans ce village, plutôt au titre de metteur en scène de théâtre, et je commence à répéter avec eux. Et là, je sens tout de suite qu'il se passe quelque chose d'étonnant et d'assez unique, comme ça, dans ce petit village, donc à côté de Castres, qui s'appelle le Burlatz, mais où il y a beaucoup aussi d'habitants de Castres qui viennent, et où je vois une expérience collective qui me trouble beaucoup, qui m'émeut. Et
pourquoi? Parce qu'on rencontre la pharmacienne, les professeurs, les agriculteurs, des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes qui se retrouvent autour de ce projet alors qu'ils se connaissent que très peu, hein, si j'ai bien compris. Parce que vous avez décidé de les filmer pendant les répétitions, de les filmer dans la vie de tous les jours.
Alors en fait, c'est vrai, les classes sociales sont assez variées, effectivement. Les âges aussi. Après, ils sont tous blancs. C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, c'est aussi de filmer une France semi-rurale, ou France moyenne, comme on voudra, qui se représente encore à travers une forme d'histoire patrimoniale, parce que les Trois Mousquetaires, s'ils ont décidé de le monter, c'est que ça leur parlait quand même, qu'il y ait quelque chose. En plus, le petit village, on voit, il y a des ruines, sur la grande place, il y a des grands crucifix, ça reste impressionnant. Donc, ça m'intéressait aussi de filmer ça, mais pas par l'angle du JT de 13h, où on est toujours sur une espèce, je trouve, de pittoresque, des petits métiers, d'une France moyenne que je trouve toujours très caricaturale. Pour moi, il y a une forme de déficit de représentation à ce niveau-là, et que il me semblait pouvoir trouver un moyen là de filmer ça. Juste pour revenir sur les répétitions, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je leur ai demandé, en fait, presque de suspendre, en fait, les répétitions pour pouvoir faire ce film, parce qu'en fait, le film ne reprend pas du tout la mise en scène du théâtre.
Ce qui vous intéresse pas, en l'occurrence là, ce qui vous intéresse, c'est de les voir faire cet exercice, se retrouver, ouais.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il s'agissait de les filmer dans leur quotidien, dans leur bureau, dans leur travail, dans leur atelier de couture, chez eux, dans leur voiture, sur le chemin de l'école.
Ça, c'est la partie partie documentaire. Mais ce que vous gardez, et c'est ça qui est étonnant dans votre film, Une jolie vallée, je rappelle le titre, Gaël Lépingue, c'est que ce que vous gardez, ça reste quand même ces moments où il chante.
Tout à fait. Disons qu'il y avait un double récit. C'est-à-dire que on garde quand même la pièce musicale, ou la comédie musicale, si on veut. C'est-à-dire l'histoire des Trois Mousquetaires racontée en chanson. Avec des solos, des morceaux de cœur, des morceaux tristes, des morceaux joyeux, etc. Mais donc dans l'ordre. Mais effectivement, les énonciateurs de la chose, que ce soit les solistes, les choristes, etc.
Ils sont pas sur scène, ils sont dans leur vie de tous les jours.
Exactement. Ça permettait de jouer beaucoup comme ça. Il y avait un côté très très ludique qui permettait de les sortir d'une forme de déterminisme. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas leur métier. En fait, on devine pour certains quand ils sont filmés dans un atelier de couture ou à la pharmacie, on devine. Mais quand même, en général, on ne sait pas très très bien.
L'institutrice, elle le dit, oui.
Oui, mais elle arrive à la toute fin. L'institutrice, oui. Justement, Milady de Winter, avec sa cravache, c'est la toute fin qu'on apprend qu'elle est l'institutrice. Donc l'idée, c'est aussi de déplacer un peu notre vision qui a tendance à toujours demander aux gens ce qu'ils sont par leur métier, ça flotte un petit peu et j'aime bien que ça flotte. C'est-à-dire que du coup, on les regarde un peu différemment. Et moi, je sais que ce qui m'attache à eux, c'est filmer leurs gestes, leur corps, leur visage, choses très concrètes, des actions. C'est peut-être un souvenir aussi de mon goût pour le cinéma classique, enfin presque hollywoodien. C'est-à-dire qu'on filmait moins des grands sujets.
Ben, vous voyez bien que vous êtes cinéaste.
En tout cas, spectateur de cinéma depuis longtemps et avec un goût effectivement pour des films d'action. C'est-à-dire que le geste, l'action est très important et ne doit pas être recouvert par un discours. Enfin, au sens presque, je veux dire que le geste a une fonction, enfin, que le cinéma a une fonction anthropologique, pour moi, très, très, très forte, quoi, et passionnante. Et là, de les filmer comme ça, un peu décalé, comme ça, de leur, d'une espèce de déterminisme social et du coup un peu télévisuel, pour moi, faisait davantage ressortir leur être, leur essence, et d'autant plus qu'ils chantent, parce que quand on chante, on s'expose, donc on est plus fragile, on est plus soi. Donc, une forme de nudité, en plus, là, qui moi, m'émeut beaucoup, et encore plus de la part d'amateurs qui vont laisser fleurir des fragilités comme ça qui font partie du projet.
Comment vous vous êtes entendu avec eux, ces habitants de ce village que vous avez si bien filmé, Gaël Lépingue? L'idée, si je dois la résumer, elle est très simple, c'est-à-dire vous êtes allé filmer le réel de ces paysans, mais au lieu effectivement de leur demander de parler de leur vie, de leur sort, de leur statut, vous avez préféré les filmer en train de faire quelque chose, et c'est vrai que ça dit plus de choses sur eux, sur leur environnement, sur leur vie de tous les jours, et surtout sur leur rapport aux autres.
Tout à fait, absolument.
Vous leur avez expliqué ce principe?
Pour être honnête, en fait, c'était un peu compliqué dans ma tête au début. C'est-à-dire que j'ai un peu cherché, et ce qui était formidable, c'est qu'ils m'ont fait confiance. C'est-à-dire que il y a eu des ratés, il y a eu des choses, il y a eu des, ah bah merde, ça marche pas, il faut le refaire. Et ils ont alors que bon, c'est des gens, comme bon, il y a quelques retraités, mais surtout c'est des gens qui travaillent, donc il fallait se retrouver le week-end ou le soir après le travail. Enfin, c'était pour eux assez contraignant. Et en plus, il y avait quand même l'objectif du spectacle, donc il fallait quand même trouver aussi des créneaux pour répéter leur spectacle. Mais ils m'ont fait confiance sans trop savoir, je pense, au départ où j'allais, mais moi-même j'en étais pas certain non plus. Et ça, je pense que ça a contribué aussi finalement à ce que nos rapports évoluent comme ça dans une forme de, je veux dire, presque de fraternité dans l'artisanat.
Elle me dit bonjour, bonne journée. Constance, Constance, prénom de circonstance. Constance, prénom de circonstance. À toute heure, en tout lieu, j'en suis amoureux. Ma fierté s'effondre devant elle. Mon courage s'envole à tire d'aile. Constance, Constance, prénom de circonstance. À toute heure, en tout lieu, j'en suis amoureux.
Un extrait d'Une jolie vallée d'une durée de 52 minutes, un film de Gaël Lépingue qui sort aujourd'hui. Alors là, on les entend en représentation, mais juste avant, vous filmiez cet habitant comme s'il vivait sa vie de tous les jours, sauf que là, en prenant sa voiture, il répète pour le spectacle, quoi.
C'est ça, disons que la scène dans le montage en fait est placée au moment où D'Artagnan tombe amoureux de Constance. Hein, donc on reste dans une narration des Trois Mousquetaires. Hein, on a vraiment joué le jeu. Hein, il s'agit de l'histoire du Collier de la Reine, bon, qui a été adapté X fois au cinéma. Sauf que effectivement, il me disait qu'ils passaient leur temps en voiture à apprendre les chansons, que c'était le moment d'ailleurs où ils étaient un petit peu tranquilles pour apprendre. Donc c'était très tentant de faire une séquence où on le voit comme ça en train de mettre dans le radio sa bande musicale et de chanter par-dessus.
Gaël Lepine, quand vous passez par la comédie musicale, enfin ce qu'on appelle comédie musicale, c'est que là, dans votre film, tout le monde est réel, hein, je veux dire, on les voit habillés comme ils sont habillés tous les jours, en train de répéter ou d'essayer de s'installer dans ce spectacle en cours. Dans cette comédie musicale, on n'entend que les chansons, parce que les chansons sont très dominantes dans ce film. C'est un film entièrement chanté, d'ailleurs, on peut le dire.
Hein. Oui, enfin, il y a juste deux séquences très courtes où ça parle, mais sinon ça chante tout le temps.
Et vous avez utilisé le même principe pour un autre film, La Nuit Tombée. Cette fois-ci, on n'est pas dans le Tarn, mais à Orléans. C'est la fin d'une journée, c'est avant que ne tombe la nuit, que les rues se vident, vous filmez cette animation à travers quelques personnages, une femme, un enfant, et là aussi, même méthode, tout passe par la chanson, ou presque.
Alors, la grosse différence, c'est que c'est une fiction. C'est-à-dire que là, fait que c'est vraiment un film que j'ai écrit. On a enregistré la musique avant, de façon très classique, et il chante en playback. Alors que dans Une Jolie Vallée, il y a des mélanges, et il y a quand même pas mal de scènes qui sont chantées en direct, ce qui était quand même, au niveau de la prise de son, un gros challenge. Là, pour La Nuit Tombée, on est dans un dispositif beaucoup plus classique, de comédie musicale plus classique, puisque donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui, pour une raison que je ne dévoille pas, ne veut pas rentrer chez lui, et qui erre comme ça dans les rues d'Orléans, à la veille de Noël. Voilà. Et en fait, le chant, une autre fonction, c'est que c'est un monologue intérieur. C'est-à-dire que chacun, lui, donc elle a le personnage de la femme jouée par Delphine Chouillot, chante, mais en fait, il chante en déambulant comme ça devant les vitrines, perdu au milieu de la ville, mais comme une voix intérieure. Et le documentaire, on va dire qu'on le retrouve, mais...
Ben bien sûr qu'on le retrouve, voilà. Puisque vous décrivez justement cette ville de province, à un moment donné de la journée, à la veille d'une fête.
C'est ça, mais en fait, on le retrouve du coup, mais plutôt dans le tournage, c'est-à-dire que c'est que dans le, comment dire, que dans le principe, puisque dans l'écriture, c'est de la fiction, mais dans le tournage, on a tourné dans une équipe très réduite pour pouvoir être quasiment invisible, et on a pu comme ça, effectivement, être dans une forme de documentaire de qu'est-ce que c'est que ce moment où tombe la nuit, donc vers 18h, 19h, une veille de Noël avec la grande roue sur la place, les gens qui viennent dans les boutiques, devant les chocolateries, et progressivement les rues qui se vident, le marché de Noël, etc.
Oui, mais dans La Nuit Tombée, est-ce que c'est parti d'une envie bien particulière, c'est-à-dire de montrer la ville d'Orléans, de poser votre regard sur la province, Gaël Lepingle?
En fait, je viens d'Orléans au départ, et la source du film, c'est comme des souvenirs. Hein. C'est des souvenirs de collégiens ou de lycéens, et ces rues que je filme, j'y ai moi-même traîné quand j'avais l'âge du protagoniste. Donc c'est quand même un film d'abord... assez sentimental, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose vraiment de personnel, même si aujourd'hui les rues, le centre-ville n'a plus rien à voir avec avec ce que c'était quand j'avais l'âge du personnage, mais la source du film c'est ça. Donc il y a une à la base, je crois qu'il y a quelque chose d'assez mélancolique, mais c'est pour ça que le documentaire m'importait, c'est que c'était un moyen de contrebalancer ça, de retrouver une forme de vitalité, d'empreinte du présent, contre la mélancolie, voire la tristesse quand même qu'il y a dans la situation et dans les chansons qui là sont pas, c'est pas très rigolo.
L'idée de dire que la comédie musicale, ça ne peut être que de la fiction, c'est cette idée que vous voulez contredire avec ces deux films. Parce que là, on a le documentaire, ou du moins le réel, et tout ce qui fait la comédie musicale, c'est-à-dire des personnages qui chantent.
Oui, mais c'est aussi parce que pour moi, là, bon, je suis évidemment un énorme admirateur de comédie musicale classique, mais le problème, c'est que depuis très 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 longtemps, la comédie musicale a quand même été récupérée par X formes de publicité, de je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, c'est un genre qui est pour moi devenu très frelaté, voire limite réactionnaire, dans le sens où ça prône une forme d'unanimisme ou de réconciliation que je trouve quand même assez louche en général. Donc pour essayer de contrebalancer ça, je vois guère qu'une forme de plongée dans le réel pour essayer de s'agripper à ce qui résiste, au côté lisse et unanimiste que la comédie musicale a tendance quand même à générer. Et c'est pour ça qu'en particulier dans Une Jolie Vallée, c'est très important qu'à la fin, l'institutrice dise que certes ils s'entendent bien, mais qu'en dehors du chœur, ils se voient pas tant que ça. Ce sont des gens, c'est un collectif qui s'invente autour d'une forme, autour d'une fiction.
Et ensuite, chacun rejoint sa solitude.
Exactement. Hein? Voilà. Enfin, en tout cas, sa vie.
C'est l'extrait de La Nuit tombée, durée 30 minutes, et avec votre autre film, Une Jolie Vallée de 52 minutes, ça fait une séance d'1h20. On peut voir à partir d'aujourd'hui ces deux films de mon invité, Gaël Lépingle, dans quelques salles d'art et d'essai, après avoir fait le tour des festivals du cinéma du réel. Hein. C'est à Marseille, c'est au FID que j'ai eu la première rencontre avec votre univers si particulier, Gaël Lépingle. Pour La Nuit tombée, par exemple, vous avez d'abord composé les chansons. Comment on écrit un film? Parce que là, les paroles des chansons doivent résumer un peu la narration de tout ce film. La musique aussi.
Oui, absolument. C'est un film, disons que assez peu narratif au sens où il y a peu de confrontation entre les personnages. C'est quand même beaucoup des déambulations, des rêveries. Il se trouve que le compositeur Julien Joubert est quelqu'un avec lequel je travaille depuis très longtemps, justement sur des opéras pour chœur, pour enfin adultes, enfants, etc. Depuis longtemps, on se connaît bien. Et j'ai pu lui parler du projet. Il a écrit tout de suite. Il a senti tout de suite quelle forme pouvait convenir. Et c'est assez, disons qu'il y a une forme d'artisanat ou de choses assez familiales. C'est son association. La musique de Léonie qui a produit le film. C'est son frère Clément Joubert qui a écrit l'orchestration. Donc voilà, j'étais en
terrain
connu. Et les paroles, c'est moi par contre. Quand même, les paroles font partie quand même du scénario.
C'est un univers très particulier tout ça, Gaël Lépingle. C'est très original. Ce que vous faites, est-ce que vous avez eu un parcours normal?
J'ai quitté Orléans à 18 ans, j'ai été à Paris, j'ai fait des études de philo et de cinéma, et j'ai eu la chance de pouvoir faire mes classes, entre guillemets, en tant que programmateur pour les états généraux du film documentaire de l'USAS pendant une dizaine d'années. Et parallèlement, j'avais donc aussi la possibilité, grâce à Julien Joubert, de gagner ma vie en écrivant des livrets d'opéra pour cœur et en les mettant en scène régulièrement, jusqu'à ce que là, récemment, je passe à la... il me soit proposé de faire de la mise en scène d'opéra plus classique. Donc il y a un but, il y a eu un peu ces deux choses parallèles.
Et la caméra, quand est-ce qu'elle s'est invitée dans votre vie? Filmer, tourner un film?
À la fin de mon expérience de programmateur, à peu près, ça a été un moment un peu naturel de prendre une caméra et de faire des films à ce moment-là.
Comment on fabrique ce genre de film? Est-ce qu'il faut beaucoup de moyens?
Alors, c'est très particulier parce que c'est des films qui coûtent vraiment très peu. Pour La Nuit tombée, on a demandé de l'argent, on n'en a pas trouvé, on l'a fait en se débrouillant, mais c'était assez compliqué. Quand même, on a pu compter sur la participation de tout le monde. En revanche, pour Une Jolie Vallée, là, donc la musique de Léonie, l'association du compositeur Julien Joubert, a vraiment produit le film. Parce qu'en fait, on n'avait pas le temps de déposer des dossiers. Il fallait qu'on tourne tout de suite. Dès que moi je me suis rendu compte de ce qui se passait, c'était en janvier-février. On savait que les représentations avaient lieu en juin. Il fallait faire le film avant. Et donc il y a eu un truc d'urgence. Et là, Julien a débloqué les moyens et on a pu vraiment faire le film dans des conditions très correctes. certains. Et ce qui était pour moi assez, assez génial, parce qu'il n'y a pas eu ce long parcours de dossiers à déposer, d'attente de réponses des commissions, mais dans l'énergie comme ça, dans le désir du film, on a pu faire ça avec beaucoup du coup de liberté et de présent, quoi.
Merci Gaëlle Lépingue d'être passée ce matin. Je rappelle que vos deux films sortent, on peut les voir
au Saint-André des Arts à Paris.
Au Saint-André des Arts à Paris, c'est une séance pour les deux films, La Nuit tombée et Une jolie vallée. Merci.
Merci.
Et du cinéma d'art et d'essai, du cinéma expérimental, on passe au cinéma d'auteur et on retrouve, toujours avec joie, Michel Simon du magazine
Positif.
Soyons positifs ce matin, on va commencer par votre coup de cœur.
C'est la couverture, tous les mois, le film que nous préférons. C'est un très beau film de Claire Burger qui s'appelle « C'est ça l'amour ». Claire Burger avait eu la caméra d'or pour un premier film qui s'appelait Party Girl, mais elle partageait la mise en scène avec deux autres camarades, tandis que c'est son premier film en solo. Et c'est une comédie dramatique, comme on dit. L'expression est un peu fourre-tout, mais c'est-à-dire, c'est un film d'abord qui joue beaucoup sur les émotions, sans devenir pour autant putassier. C'est un film qui a beaucoup de raffinement, joué par un acteur qu'on n'a pas vu dans ce type de rôle, c'est Bully Lanners, qui joue souvent des malabars, des types un peu à la frange, etc. Et qui là joue le rôle d'un père qui a deux filles et qui est abandonné par sa femme et qui va élever ses deux filles. Donc c'est un film qui... C'est un peu Love Streams à la Cassavetes, vous voyez. D'ailleurs, elle aime beaucoup Cassavetes, Claire Burger, c'est ce qu'elle dit dans l'entretien que nous avons fait avec elle. Et donc c'est un film... extrêmement émouvant, avec beaucoup d'humour, et qui est tourné d'ailleurs dans l'est de la France, dont elle est originaire. Claire Burger, c'est sa ville natale, Forbach. Et je trouve que ce film est vraiment une confirmation qu'il y a en France de beaucoup de réalisatrices de grands talents. C'est le pays au monde, certainement, où il y a le plus de femmes metteurs en scène, et qui ont autant de talents, et Claire Burger en fait partie.
Et comment ne pas rendre hommage, maintenant que vous parlez des femmes au cinéma, à Agnès Varda? Je voudrais vous entendre à ce sujet, Michel Simon.
Agnès Varda, évidemment, puisque je parlais des réalisatrices, elle est, on l'a dit qu'elle était la grand-mère de la Nouvelle Vague, ça la faisait rire d'ailleurs, parce qu'elle était très jeune, elle avait fait la pointe courte à 25 ans, et ensuite Cléo de 5 à 7. À l'époque, pratiquement très peu de femmes faisaient des films, et évidemment, elle est très populaire. Hier, j'ai assisté à un grand hommage le matin à la Cinémathèque française, en présence du ministre de la Culture, avec Thierry Frémaux, avec... Frédéric Bonneau, qui a fait un très beau discours, c'est le directeur de la Cinémathèque française. Et puis l'après-midi, c'était l'enterrement. Et on a vu au cimetière de Montparnasse, on voit l'extraordinaire popularité de cette femme. Il y avait peut-être 2000 personnes. C'était considérable. Des gens venaient avec des bouquets de fleurs. Et il y avait tout, le cinéma français était là. Tous les metteurs en scène étaient là, les producteurs, etc. Donc Agnès Varda, c'est vraiment quelqu'un qui m'a accompagné toute ma vie. Enfin, j'ai découvert ses courts-métrages. J'ai écrit d'ailleurs dans le livre des obsèques 60 ans de bonheur. Elle m'a donné 60 ans de bonheur. Et d'ailleurs, son dernier film qui était à Berlin, qui est une sorte de leçon de cinéma, Varda par Agnès, a été montré à Berlin. Il est distribué par Arte. On peut le demander à la demande. Et c'est une merveilleuse, effectivement, leçon de cinéma avec des extraits de ses films. Donc, salut à Agnès Varda.
Puisque vous parliez du Festival de Berlin, lors du dernier Festival de Berlin, vous avez vu le dernier film d'un réalisateur que vous aimiez, pourtant, hein?
Absolument. Mais moi, je fais la politique des auteurs.
C'est-à-dire que vous avez deviné de qui je voulais parler?
Nadav Lapide.
Absolument.
Pour je ne vais pas trop lapider, mais néanmoins...
Alors vous êtes le seul à dire du mal du film.
Non, je suis pas le seul. Non, il y a des gens qui l'ont pas aimé. Mais la presse, effectivement, est unanime. Il a eu l'Ours d'Or. J'avais beaucoup aimé l'institutrice et puis le policier, qui étaient deux films très remarquables.
Et là, vous êtes plutôt réservé
ou
vous
là, je suis très réservé parce que...
Très réservé, c'est-à-dire que vous l'avez pas aimé.
Je crois que la presse s'est fait piéger par le côté godardien du film. C'est-à-dire, il refait un peu Pierrot le Fou... mais 50 ans après. Donc c'est pour moi du postmodernisme très épuisé on comprend pas très bien où il veut en venir. Il y a une haine de son propre pays. Il est israélien. D'ailleurs, le film est financé en partie par Israël. Et il a une haine pour son pays. Il dit Israël est une tumeur qu'il faut extirper. Et moi, je suis très critique d'Israël. C'est-à-dire, je pense que Monsieur Netanyahou fait une politique que je réprouve complètement. Mais je ne dirai jamais qu'un pays est une tumeur qu'il faut extirper. L'Italie, par exemple, a un gouvernement néo-fasciste. Je ne dirais pas que l'Italie est une tumeur qu'il faut extirper. Donc il y a une haine de son pays qui, à mon avis, gâche complètement le film. Donc, et du point de vue esthétique, et du point de vue politique, je trouve que c'est un film qui me déplaît, qui est un film assez poseur et assez déplaisant.
Michel Simon, merci pour vos coups de gueule, vos coups de cœur et pour l'hommage à Agnès Varda.
Et alors, positif tout de même.
Positif.
Positif est beaucoup centré sur, évidemment, Agnès Varda et Claire Burger dans ce numéro, mais aussi un dossier sur le western crépusculaire, tous les westerns des 20 dernières années, et puis des retours sur René Clair, Fellini-Roma et Skolimowski.
Merci Michel d'être passé.